franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui d'une cassette à l'autre, 1996, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossier. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est réellement abracadabrantesque. L'action se déroule pour l'essentiel de 1995, lorsque le juge d'instruction à Nanterre est saisi d'une affaire de versement de salaire des permanents du RPR par la ville de Paris sous les mandats municipaux de Jacques Chirac, jusqu'à avril 1999, lorsque le juge se déclare incompétent pour entendre le président. Mais dans la réalité, l'enquête a duré plus de 15 ans, de 1995 à 2011, date à laquelle l'ancien chef de l'État passera finalement en jugement dans cette vieille affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Du dossier des faux électeurs parisiens, celui des HLM de la capitale, puis des marchés truqués des lycées d'Île-de-France, et enfin des emplois fictifs, ce sont plusieurs cadres du RPR, anciens syndicalistes et anciens ministres, qui ont été entendus, jugés et condamnés tout au long de l'enquête et des procès successifs. Le nom de Chirac revenait continuellement dans l'ombre et planait dans les bureaux d'instruction, mais sans jamais être prononcé directement. Il faudra attendre le 8 novembre 2010 pour que celui-ci soit renvoyé en correctionnel pour prise illégale d'intérêt. Il comparaîtra devant le tribunal le 8 mars 2011, son immunité présidentielle ne pouvant plus le protéger. Ces affaires et ces accusations sont bien sûr sérieuses, puisque c'est dans le dossier des emplois fictifs que plusieurs condamnations ont été prononcées en 2004, notamment à l'encontre de l'ancien Premier ministre, Alain Juppé. Mais ces affaires ne représentent qu'une partie de l'iceberg, et de nombreux autres dossiers aux implications politiques ou aux conséquences financières plus lourdes devront être abordés. C'est pourquoi, après la fiction, nous continuerons notre enquête dans ce passé trouble avec Thierry Lévesque, journaliste et enquêteur spécialisé dans les affaires judiciaires. Il détaille dans son livre intouchable « Chirac face à ses juges » aux éditions de la Villa comment l'homme central de toutes ces affaires, et je cite l'auteur, a été au cours de ces longues années passées à l'Élysée un fugitif institutionnel, une sorte d'intouchable provisoire, de justiciable mis entre parenthèses hors de l'espace et du temps.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
D'une cassette à l'autre. 1996, les emplois fictifs de la mairie de Paris. De François Perrache. Réalisation Cédric Ossier.
Ô flot abracadabrantesque, prenez mon cœur qu'il soit lavé, ityphalique et pioupiesque, leurs colibés l'ont dépravé, quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé ?
Je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Madame Lucet, il doit y avoir des limites à la calomnie. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. On exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans, et dont le journal lui-même, qui publie ses propos, les qualifie d'invérifiables et de sans valeur juridique.
C'est un menteur !
Oh, super menteur !
Super menteur, mais vous avez quelque chose à voir dans cette affaire ? Non, je viens vous présenter mon remplaçant.
Une histoire abracadabrantesque. On a beaucoup glosé sur cette invention linguistique tirée d'un vers de Rimbaud. Pendant des mois, les guignols de l'info ont fait leur gorge chaude de super menteurs. On a beaucoup ironisé sur cette affaire. L'ironie, c'est la maladie de l'époque. On a dit, on a écrit tout et son contraire, mais pour ma part, moi qui en savais bien plus long que beaucoup de commentateurs, je me suis toujours tu. Aujourd'hui, mon nom ressort de loin en loin dans la presse. mais les images de moi sont rarissimes et je n'ai jamais donné d'interview. La vedette, c'était Eric. Eric Alphen, le plus médiatique des juges discrets. Ça m'allait très bien comme ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Un ami m'a dit un jour que j'avais passé ma vie à me dissimuler derrière ma moustache, sous ma robe d'avocat et puis sous ma robe de juge. Et à quoi bon parler ? Qui croirait les pressions subies, les risques encourus, les détails rocambolesques ? Croiriez-vous, par exemple, qu'une collègue ait été obligée de faire garder ses dossiers dans le coffre-fort de la gendarmerie où elle passait ses vacances ? Je ne dis pas dans un potentat africain. Je ne dis pas dans une dictature sud-américaine. Je dis en France, et à la fin du XXe siècle. Quel média aujourd'hui se donnerait le temps d'expliquer dans toute sa complexité un immense système de corruption où les offices HLM, les lycées d'Île-de-France, les emplois fictifs n'étaient qu'une seule et même affaire ? Je peux vous lancer des noms connus. Mairie, Caseta, Juppé, Dumas, Séguin, Toubon, Perben, Villepin, Chirac, j'en passe et des pires. Tous ces noms apparaissent dans notre histoire. Mais il faudrait tout dire. Instruire à charge et à décharge. Tout dire ou ne rien dire du tout. Et puis on me croit partisan. On me rétorque. Et dans le camp d'en face ? Certes, mais ce n'est pas à moi de parler de l'affaire Urba ou des emplois fictifs de l'AMNEF. Je ne les ai pas instruites. Je me suis toujours tu. Et si j'avais dû parler, je n'aurais raconté que le tout premier épisode de cette histoire. Mon premier échec. Ma faute originelle. Je me dis souvent que si je n'avais pas échoué ce 15 avril 1999, peut-être ne serions-nous pas en train de reproduire les mêmes erreurs. Et pourtant, nous avions toutes les preuves. Étalé au grand jour télévisuel ce 21 septembre 2000.
Jean-Claude Méry était un promoteur, homme d'affaires, ancien membre du comité central du RPR. Il fut mis en examen dans l'enquête menée par le juge Eric Alphen sur les marchés publics des HLM de la ville de Paris. Il était présumé avoir joué le rôle de collecteur de fonds dans la capitale auprès des entreprises de bâtiments comme Bouygues ou encore des eaux comme la Générale des eaux ou la Lyonnaise des eaux. Jean-Claude Méry est mort en 1999. Le journal Le Monde, cet après-midi, révélait le contenu d'une cassette vidéo, une cassette de confession.
Je les ai contraints à me verser un total sur cette opération de 10 millions de francs, que j'ai réparti moi-même à raison de 5 millions de francs pour le RPR, 1 million de francs pour le Parti communiste, 3 millions et demi de francs pour le PS. Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac.
On m'a parfois reproché de vouloir conduire un procès politique et de m'acharner sur le sommet de l'État. Si j'ai tenté de m'attaquer aux plus hautes instances, c'est parce que je crois à l'exemplarité et parce que le poisson pourrit toujours par la tête. J'imagine que vous ne me connaissez pas, que mon nom ne vous dira rien. Je m'appelle Jean Cormon. J'étais juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre. Je suis l'homme qui n'a pas réussi à mettre en examen le chef de l'État. Pour moi, tout a commencé en 1996.
Antoine, je peux te parler deux minutes ?
Non. Qu'est-ce que tu veux ? Parce que je suis en bouclage, là, hein ? Et je suis tout seul. Et ce matin, pourquoi t'étais pas à la conf de rédac ? C'est pas en option.
J'étais à la pêche aux infos, j'ai un sujet béton.
Si c'est encore ton énième papier sur le cumul des mandats...
En béton, je te dis, en béton armé même. Et je te fournis avec la grue, la brouette et le chef de chantier.
Quoi ?
Je te raconte ?
Non.
Je te raconte. J'ai une copine qui a une voisine, une cousine, je sais plus...
Bah, elle débute super bien ton histoire. Là, je sens qu'on est en lice pour le Pulitzer.
Bref, je suis en contact avec une fille très bien renseignée qui connaît une greffière au TGI de Nanterre. Je peux m'asseoir ?
Non.
Cette greffière bosse avec un juge qui s'appelle Jean Cormon.
Je connais pas.
Moi non plus, mais je me suis renseignée. C'est un taiseux, bosseur, 40 balais, qui a déjà géré une affaire de caisse noire dans un gros club de foot.
Eh bah, ben, t'as qu'à proposer ton sujet au rédac chef de l'équipe.
Ce juge-là, Cormon, Jean Cormon, il est en train de réouvrir l'instruction sur des soupçons de financement illégal du RPR.
Oh non, pas ça, non. Stop, 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 Claire, tu vas pas recommencer. C'est le dossier du juge Alphen, c'est ça ? Tu remets ça.
Antoine, en juillet dernier...
Je t'écoute plus, Claire, dehors.
Le 3 juillet, Alphen a fait une perquise au siège du RPR. Trois jours plus tard, il place l'adjointe aux finances, une certaine Caseta, Louise-Yvonne Caseta, en gave.
En quoi ?
En garde à vue. Quatre mois plus tard, le 2 novembre 95 précisément, le parquet ouvre une enquête préliminaire visant Caseta.
Mais c'est qui cette Caseta ? C'est une élue ?
Caseta, mais il la surnomme la cassette. Elle vient de Guingamp, dernière d'une famille de 15 enfants, élevée chez les bonnes sœurs, sténodactylo, etc. Au départ, c'est juste une petite secrétaire du RPR, montée en grade très rapidement. Elle s'occupait déjà de la cellule de collecte de dons pour la campagne de Chirac en 88.
Avec Perben ?
Ouais. Après la défaite de Chirac, Juppé, qui était secrétaire général du parti, l'a gardé rue de Lille pour s'occuper de la rénovation des locaux. Mais le nom de cette caseta apparaît en toutes lettres dans l'agenda de Jean-Claude Méry. Agenda récupéré par le juge Alphen, d'où garde à vue, puis enquête préliminaire, etc. Mais bon, pour l'instant, cette caseta aurait rien dit.
Donc on va pas faire un reportage sur une obscure administrative qui a rien lâché. Oh non, je jette pas comme ça des noms de sous-fifres en pâture.
Caseta, c'est pas une simple administrative. C'est Vergès qui la défend. C'est pas mal, non, pour une sous-fifre. Et dès qu'elle a été mise en examen, la chancellerie, le ministre, pour être précis, tout bon en personne, a retiré le dossier au juge Alphen. Tu te souviens de l'article du canard ? Et c'est ce Jean Cormon qui a hérité du dossier.
Et il va s'y casser les dents comme Alphen.
Peut-être, sans doute il va se casser les dents, mais c'est parce qu'il veut mordre très fort cette fois-ci. Bon, je peux m'asseoir ?
Non, tu vas encore essayer de m'embobiner.
Merci.
J'ai dit non.
Cormon est en train d'enquêter sur une boîte de BTP de Montreuil qui, en échange de marchés publics, aurait financé des emplois fictifs pour le RPR entre 88 et 92.
Des quoi ? Qui aurait financé des quoi ?
À l'époque, presque personne n'avait entendu parler d'emploi fictif. Depuis, l'expression a fait florès. La technique de financement était pourtant presque toujours la même depuis le milieu des années 80. Harceler des patrons d'entreprises du BTP pour exiger qu'ils prennent en charge des salaires de permanents de partis politiques en échange de marchés publics. Louis-Yvonne Caseta, comme Jean-Claude Méry, était un des rouages de cet immense mécanisme. Pas la tête pensante, non. La cheville ouvrière, disons. En bonne exécutante, elle couvrira pendant des années ses supérieurs, même quand ils la lâcheront. Pourtant, Éric Alphen, puis moi, n'avions pas ménagé nos efforts. On savait qu'on tenait quelque chose.
Connaissez-vous Jean-Pierre Belin, le PDG de l'entreprise Montreuil Bâtiment ?
Non.
Son directeur commercial, Gérard Bernardi, vous a-t-il appelé ?
C'est possible, mais il ne peut pas dire qu'il m'a eu au téléphone.
Monsieur Bernardi dit qu'il
Partons
vous a...
Partons pas trop vite, s'il vous plaît, monsieur le juge. Il ne peut pas dire qu'il m'a eu au téléphone. Voilà, pardon.
Monsieur Bernardi, donc, directeur commercial de l'entreprise Montreuil Bâtiment, dit qu'il vous a remis une enveloppe en main propre.
Il ne m'a jamais remis d'enveloppe.
Madame Caseta, vous souvenez-vous avoir déjeuné avec Belin et Bernardi au restaurant Le Carré des Feuillants en février 93 ?
Non.
Non ?
Non.
Viande ou poisson ?
Pardon.
Messieurs Belin et Bernardi affirment que vous étiez à ce déjeuner. Ils nous ont même fourni la note détaillée. Très bonne table, enfin j'espère, à ce prix-là. En plat principal, ils ont notamment réglé un caneton à l'orange, des riz de veau et un turbo sauvage. Alors je vous demande, vous êtes plutôt viande ou poisson ?
Je n'étais pas à ce déjeuner. Mais j'aime beaucoup les riz de veau. Il faut les préparer délicatement en enlevant bien la peau. Sinon, ça laisse une petite amertume.
Bonjour, c'est Vergès. Alors, ça va mieux ? Vous vous êtes remise ?
Bonjour, maître. C'est dur.
Je sais. 36 heures de garde à vue, c'est violent. Mais on s'habitue, vous verrez. Ce Cormon veut vous avoir d'usure. Bon, je viens d'avoir le greffe. Ils m'ont confirmé évidemment votre mise en examen. Mais Cormon a retenu seulement le recel d'abus de biens sociaux. On s'en sort bien.
On s'en sort bien. Et je suis la seule mise en examen. Et les trésoriers ? C'est eux les responsables, merde !
Leur tour viendra, mais ils se concentrent sur vous pour l'instant. Il faut tenir, Louis-Yvonne, il faut tenir. Et on ne change pas la ligne de défense.
La capacité de résistance d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Le métier de juge d'instruction, c'est d'identifier ce maillon et de le faire céder. Louis-Yvonne Caseta était solide. Mais parfois, ce sont les meilleurs qui craquent. Comme pendant le procès de 2003 où le directeur de cabinet d'Alain Juppé finira par lâcher à la présidente, mais tout le monde savait que cette situation existait. Une déclaration qui pèsera lourd dans le verdict rendu contre l'ex-premier ministre. 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'inéligibilité. Un an plus tard, la peine d'Alain Juppé sera ramenée à 14 mois avec sursis et un an d'inéligibilité. En passant, je signale que pour abaisser cette condamnation, la cour d'appel de Versailles a dû déroger à une loi voté par la majorité RPR-UDF elle-même, qui prévoyait l'automaticité de la période d'inéligibilité. La Cour a même dû invoquer l'article 432-17 sur les peines complémentaires. Mais je digresse, et je ne veux pas vous perdre avec des détails techniques. Disons simplement que pour alléger la peine en appel, la Cour s'est sentie obligée de se justifier. Monsieur Juppé s'est consacré pendant de nombreuses années au service de l'État, n'a tiré aucun enrichissement personnel de ses infractions commises au bénéfice de l'ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. Les gros poissons, surtout en eau trouble, sont rares. Et j'ai surtout vu défiler dans mon bureau du menu fretin, beaucoup de petites employées du RPR qui auraient préféré se faire arracher une dent que de lâcher le morceau. Une d'elles m'a dit un jour, en me regardant bien en face, « Monsieur le juge, dans secrétaire, il y a secret et il y a terre. » Une seule finira par m'avouer qu'elle était salariée par une entreprise privée. « Messieurs, traitez convenablement vos secrétaires et elles vous le rendront bien. » Idem du côté de la mairie de Paris. La plupart des chargés de mission convoqués au TGI de Nanterre ne se démontaient pas. Et pourtant, à l'issue de la procédure, on démontrera que plusieurs dizaines étaient des emplois fictifs qui travaillaient en réalité sur la campagne du futur président de la République. Plusieurs dizaines, dont beaucoup de fils et de filles d'eux, tous solidaires. Parfois, rarement, quand j'en avais marre d'être mené en bateau, je m'offrais des petites récréations.
De Paris, Mathieu, bonsoir.
Oui, bonjour. Je voudrais parler à monsieur Jean Mainviel, s'il vous plaît.
Monsieur ?
Mainviel.
Mainviel ?
Oui.
Vous le connaissez comment ce nom ?
M-E-N-V-I-E-2-L-E. Il est inspecteur de la ville de Paris. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit.
Alors, j'ai besoin de son nom, monsieur.
Mainviel. Alors, Mainviel. Et il est dans quel service ?
Il est inspecteur de la ville de Paris.
Alors, Mainviel. Je ne trouve pas. Non. Non, j'ai personne à ce nom-là, monsieur. Désolé.
Des dizaines de chargés de mission qui n'avaient ni bureau, ni téléphone, ni fax. À l'époque, on ne parlait pas encore de mail et n'apparaissaient dans aucun annuaire. Ces coups de fil étaient ma seule distraction en attendant les vacances à la montagne pour tenir face à la pression. À l'instruction, dans ces dossiers politico-financiers, on a toute la machine sur le dos, les prévenus et leurs avocats, bien sûr, la presse qui veut ses infos, les politiques qui dénoncent les petits juges et les procès politiques, sans parler de la chancellerie qui vous soutient comme la corde soutient le pendu, quand elle n'est pas carrément en embuscade. Beaucoup de front à tenir en même temps. Et dans mon petit bureau du TGI de Nanterre, j'étais plus souvent à Waterloo que sur le pont d'Arcole. Un exemple, un seul de ces batailles perdues. Jean-Pierre Belin, patron d'une société de travaux publics de la banlieue parisienne. Je m'autorise à le citer. Son nom a défrayé la chronique. J'avais fini par obtenir de lui qu'il m'explique en détail comment le système fonctionnait.
Montreuil Bâtiment, bonsoir.
Ah, Jean-Pierre, je suis content de tomber sur vous directement.
À cette heure-là, ma secrétaire est partie.
Ça va les affaires ? Vous êtes bien occupé, j'arrive jamais à vous joindre.
Ça va, on chôme pas.
Tant mieux, quand le bâtiment va. Alors, vous avez réfléchi ?
Non, je crois qu'il faut que vos collègues et vous arrêtiez de m'appeler cette semaine. J'ai déjà reçu 4 appels de madame...
Pas de nom, Jean-Pierre, pas de nom.
Mais c'est trop compliqué pour nous, votre montage.
Mais non, c'est très simple, au contraire. Et je vous appelle parce que j'ai une bonne nouvelle. J'ai l'accord de mes patrons pour vous faire une proposition encore meilleure. Vous pourrez pas refuser.
Non, vraiment.
Écoutez-moi d'abord, hein. Ensuite, vous me direz merci. Alors, ma nouvelle proposition, c'est ça. Vous montez à 340 et nous, en plus de la crèche et de la rénovation du collège de la rue Vitruve, on vous prend aussi sur la construction d'un parking. Avenue Duquesne, dans le 7e. Un gros truc. Réfléchissez, Jean-Pierre.
Maryse, vous pouvez relire le PV à Monsieur Bernardi, s'il vous plaît ?
Gérard Bernardi, directeur commercial de la société Montreuil Bâtiment, nous déclare ce jour. Il est exact que, à la demande de Monsieur Jean-Pierre Belin, j'ai remis à Madame Casetta, qui travaille dans les locaux du RPR rue de Lille, une grosse enveloppe incluse dans une chemise cartonnée. J'ai parfaitement compris que le dossier en question contenait de l'argent en espèces destiné à être remis à cette dame. Concrètement, j'ai téléphoné à Madame Casetta d'une voiture stationnée rue de Lille. Madame Casetta est descendue chercher l'enveloppe dans ma voiture. Je sais que ces remises de fonds en espèces à Madame Casetta correspondaient à la contrepartie de l'obtention par l'entreprise Montreuil Bâtiment de marchés obtenus auprès de la mairie de Paris. Monsieur Bernardi conclut, Monsieur Belin m'a dit qu'il y avait une taxe parti politique de 3 à 4% à appliquer sur le montant de la commission Montreuil Bâtiment.
Nous sommes d'accord ? Bien.
Après lecture, M. Bernardi persiste dans ses déclarations et signe.
Alors, une petite signature ici, s'il vous plaît. Voilà, 340 000 francs pour financer des permanents du RPR en échange de 3 marchés publics. J'avais toutes les déclarations, dûment obtenues, sur procès verbal, les dates, les noms, les montants. Mais un an après, le jugement faisait plus de 100 pages, je me souviens encore de la formulation finale. En définitive, malgré la forte suspicion qui pèse sur Louise-Yvonne Casetta, l'accusation n'a pas rapporté la preuve de son implication concrète dans les faits de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux allégués par Monsieur Belin. Fermez le banc. Et savez-vous pourquoi Madame Casetta est ressortie libre ce jour-là? Parce que Jean-Pierre Belin nous avait déclaré que ce pacte de corruption avait été scellé lors d'un déjeuner à trois réunissant Madame Casetta, Monsieur Belin et Monsieur Bernardi, son directeur commercial. Or, l'heure indiquée sur la note du restaurant présentée pour preuve était 23h04, ce qui ne collait plus pour un déjeuner. Belin sera donc condamné légèrement, mais Madame Casetta, quoique fortement suspectée, ressortira libre du tribunal. 23h04. À quoi tiennent des mois d'instruction? Messieurs, gardez précieusement vos notes de restaurant. Waterloo, je vous dis. Waterloo! Mais j'ai aussi connu quelques rares et belles victoires, comme le 21 août 1998, où j'ai envoyé un courrier à Alain Juppé pour lui notifier sa mise en examen en tant qu'ex-secrétaire général du RPR de 88 à 94. Je lui ai fait la totale. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance aggravé, prise illégale d'intérêt et complicité de recel et d'abus de confiance. Le soir même, je suis parti en vacances.
Allô? Allô, monsieur le juge? Vous avez vu la télé?
Non, je suis en pleine montagne, là.
Ah, et il fait beau?
Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Maryse?
Vous avez vu le Figaro?
Non, je suis à la montagne, je vous dis, dans un chalet.
Monsieur Juppé a publié une tribune dans le Figaro. En gros, il dit qu'il fait confiance à la justice et qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Je vous lis.
Avec Juppé, j'avais franchi la ligne rouge et ouvert la boîte de Pandore.
Notre maison brûle. Et... nous regardons ailleurs.
À l'Élysée, le secrétaire général, un certain Dominique de Villepin, se charge d'établir ce qu'il appellera un cordon sanitaire autour de Juppé. Objectif, protéger le président à tout prix. À tout prix. J'ai compris très vite que s'ouvrait alors une course entre le judiciaire d'une part et l'exécutif allié au législatif d'autre part. Je savais que je n'avais aucune chance, mais les trois pouvoirs sont séparés et indépendants, n'est-ce pas? Du moins en théorie. Et ce n'était ni la première ni la dernière fois que je jouerais la farce de Montesquieu. J'ai tenu presque 8 mois, jusqu'au 15 avril 99. Et j'ai perdu.
Je te l'offre, c'est mon tour. Cours sans sucre?
Non, plein de sucre.
Oula, tu nous fais une petite déprime, toi.
Bah y'a de quoi, non? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, non lieu.
Tu t'attendais à quoi? Tu pensais vraiment qu'ils allaient mettre Chirac en examen? Tiens, t'as trouvé ton angle? Ce serait bien si j'avais ton papier avant midi. Bon, 13h mettons, pas plus tard. Comment tu penses traiter ça?
Bah, je suis sur mes notes, là. C'est tellement compliqué, je pense juste faire un récap chronologique centré sur le juge Cormon, en commençant par la mise en examen de Juppé, et en concluant sur son ordonnance de non-lieu d'aujourd'hui en faveur de Chirac.
Ok, mais te perds pas dans les détails des procédures et autres, hein. C'est déjà assez compliqué.
Non, bah, juste les dates essentielles. Août 98, mise en examen de Juppé par Cormon. 5 jours après, Séguin demande au gouvernement Jospin une nouvelle loi sur le financement des partis politiques.
Avec la suppression des infractions non liées à un enrichissement personnel. Précise bien dans ton papier que c'était justement la ligne de défense de Juppé.
Oui, oui. Donc, mars 99, Cormon met la main sur un courrier signé de la main même de Chirac qui prouve sa connaissance du système.
Mais trop tard.
Eh oui, 2 mois trop tard. Comme par hasard en janvier, Dumas, au Conseil constitutionnel, interdit les poursuites contre un chef d'État en exercice.
Coup de bol pour Chichi. Et aujourd'hui, Cormon rédige une ordonnance de non-lieu en faveur du président en se déclarant incompétent à cause de la décision du Conseil constitutionnel. Vive la France.
Cormon écrit quand même dans son ordonnance que ces délits sont susceptibles d'être imputés à Monsieur Jacques Chirac à titre personnel.
Ça doit vachement impressionner Chirac. Comment il dit déjà? Ça m'en gratte une sans réveiller l'autre.
Bah, je vais quand même le mettre dans mon article. Et je vais aussi expliquer que Dumas a probablement négocié l'impunité du président contre son soutien réciproque dans l'affaire Elf.
T'as des preuves de ça? Te lance pas trop là-dedans. Les faits, Claire, les faits. Allez, boucle-moi cet article et passe à autre chose.
Waterloo, 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 morne pleine. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, tu désertais, Victoire. Et le sort est hélas. Oh Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas.
Je savais que j'étais suivie dans la rue. J'avais peur. Je ne voulais plus descendre seule dans les parkings. Mes téléphones étaient sur écoute. La veille du procès des marchés des lycées d'Île-de-France, un policier m'a dit « Je peux vous dire tout ce que vous avez fait hier. » Pendant un entretien d'embauche, ma fille s'est vue refuser le poste quand elle a dit son nom de famille. Le 14 juillet 1995, tout le personnel du RPR a été invité à la garden party de l'Élysée. Je suis la seule à ne pas avoir reçu de carton. En septembre 1996, à la convention des jeunes du RPR à Troyes, on m'a fortement conseillé de rester dans ma chambre d'hôtel. Autrement, vous allez être piétinée. Je suis devenue une pestiférée. Mais je suis convaincue que tôt ou tard, les véritables responsables paieront. Pour certains, c'est déjà fait. Chirac, j'admire l'énergie qu'il déploie et l'attention qu'il porte aux gens, qu'elles soient ou non factices.
Si toute ressemblance avec des personnages et situations réelles n'a rien de fortuite, les patronymes de la plupart des protagonistes de cette histoire abracadabrantesque ont été modifiés. Seuls les noms de Madame Casetta, Monsieur Vergès et des élus, tous largement cités dans les médias et les décisions de justice, ont été conservés.
D'une cassette à l'autre. 1996, les emplois fictifs de la mairie de Paris. De François Perrache. Avec Christophe Raymond, Judith Davis, Nicole Doguet, Christine Gagneux, Antoine Doignon, Philippe Pierrard, Alain Libolt, Yves Eck, Maya Boquet. Bruitage Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage, Marie Le Peintre, Éric Villenfin et Céline Guéribi. Assistante à la réalisation Clémence Gross. Réalisation Cédric Ossir.
Feel like crying. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui d'une cassette à l'autre, 1996, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Notre invité aujourd'hui, Thierry Lévesque, journaliste, auteur du livre enquête intitulé « Intouchable ». Bonjour Thierry Lévesque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes journaliste depuis 30 ans, ancien de l'agence Reuters et devenu indépendant. Vous vous êtes spécialisé dans les affaires judiciaires. Vous avez suivi les grands procès criminels des années 90 et 2000, de Carlos jusqu'à Guy Georges, en passant par Fourniret et à l'affaire du sang contaminé. Clearstream également, et donc les affaires de la mairie de Paris. Vous avez écrit plusieurs essais, dont Intouchable, point d'interrogation, Chirac, face au juge, aux éditions de la Villa. Et ça m'amène tout naturellement à cette question. Est-ce que toute cette histoire, ou plutôt toutes ces histoires autour des emplois fictifs et des autres affaires de la mairie de Paris, ne sont pas le symbole de ce qu'on pourrait appeler une corruption politique à la française, car pendant plus de 15 ans a été mis en place un système sophistiqué et assez incroyable. Alors je ne sais pas si c'est à la française ou pas, peut-être que dans d'autres pays ça se fait aussi, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans ces affaires ?
Oui, moi je crois qu'il y a ce que j'appelle moi une sorte de culture de la corruption en France qui en fait s'est développée pas mal dans les années 80. Justement au moment où Monsieur Chirac devient maire de Paris, il y a deux facteurs qui favorisent ça. D'abord, on l'a oublié, il y a le changement de statut de la mairie de Paris, hein, parce qu'avant il n'y avait pas de maire élu de Paris.
La loi Chirac, PLM de 83.
Voilà, donc Monsieur Chirac est le premier maire élu de Paris en 77 et jusqu'en 95, pendant deux décennies. Et on sait qu'il a de grandes ambitions dès cette époque, donc la mairie de Paris va lui servir de tremplin. Et puis l'autre facteur, c'est la loi de décentralisation qui donne à tous les maires de France, mais aussi à celui de Paris, des pouvoirs financiers considérables. Et la ville de Paris est particulièrement concernée par ce dispositif, puisque son budget est énorme. Encore aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'euros et des dizaines de milliers d'employés. Donc c'est une sorte d'État dans l'État en termes financiers. Et cette culture de la corruption donc va notamment se développer dans ce fief parisien.
Alors je remarque que la culture de la corruption n'est pas l'apanage des gaullistes et néo-gaullistes. Néanmoins, depuis le général de Gaulle et jusqu'aux néo-gaullistes, jusqu'à Nicolas Sarkozy, il semble y avoir quand même une tradition comme celle-là. Certains disent que ça vient de la tradition de la résistance, c'est-à-dire le côté complot qui aurait été perpétué, mais là pour de mauvaises raisons pour le coup. Est-ce qu'il y a cette culture-là ?
Alors là, c'est peut-être remonté très très loin quant aux origines de cette mentalité, on va dire. Moi, je me suis quand même plutôt intéressé plus récemment à ça. Alors je peux pas remonter jusqu'à la culture de la clandestinité qu'ont pu avoir les gaullistes.
C'est ça, la clandestinité, voilà.
Mais effectivement, c'est un facteur qui a pu jouer. Mais je crois vraiment que c'est plus le développement de la vie politique moderne, le financement des campagnes qui prend beaucoup d'ampleur dans les années 80, le développement des médias de masse où il faut être présent, et puis surtout dans le cas Chirac et du RPR, cette ambition personnelle qu'il va assurer un petit peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire qu'on étage par étage, il faut gagner jusqu'à la moindre cantonale d'abord, assurer l'implantation de son parti au plan national, remporter les élections intermédiaires, se faire réélire à Paris triomphalement, on verra dans quelles circonstances, de manière à accéder à la plus haute marge du pouvoir un jour. On sait que ce sera pas pour tout de suite. L'élection qu'on vient de vivre en France avec Macron, qui comme ça est surgi de presque nulle part, à l'époque c'est pas possible, ouais. En tout cas on pense que c'est pas possible.
Alors on va revenir sur toutes ces histoires, enquêtes, procédures, quel que soit le nom qu'elle prend, cette histoire plurielle, elle a duré très longtemps, mais d'abord quelles sont les étapes du dossier des faux électeurs parisiens, celui des HLM de la ville de Paris, puis des marchés truqués des lycées d'Île-de-France et enfin des emplois fictifs. On pourrait reprendre une chronologie assez résumée quand même, hein,
parce qu'on n'a pas non plus une demi-heure. Ça va être très complexe parce que effectivement, il y a une dizaine d'affaires, une dizaine de juges et tout ça va s'étaler sur une quinzaine d'années entre les procédures d'enquête, les jugements qui seront très tardifs et qui aujourd'hui, même pour certains, ont été complètement oubliés, même s'ils ont été très importants. Alors, ce qu'on peut dire schématiquement, c'est qu'il y a, trois catégories d'affaires principales. Hein. Il y a d'abord le financement par la corruption sur les marchés publics, c'est-à-dire tu me donnes un marché public, je paye en contrepartie sous diverses formes. Là-dedans, il y a eu les HLM de Paris.
Tu me donnes un marché public Je finance par des postatures.
Voilà.
Ce que vous voulez.
Alors,
notamment
sous diverses formes. Par exemple, en contrepartie d'un marché public, on peut payer en liquide. Ça s'est vu dans certaines affaires. On peut embaucher des cadres du RPR dans des boîtes de BTP. Ça s'est vu aussi. Voilà. Donc, il y a différentes modalités, on va dire. Mais tout tourne autour du financement, bien sûr, du parti qui est au pouvoir à Paris. Donc, dans cet ordre d'idées, on a les marchés publics d'Île-de-France, qui est, en fait, concerne la région Île-de-France, dirigé à l'époque par un proche de Chirac, Michel Giraud, qui rénove les lycées dans les années 90. Ce sont des marchés qui rénovent et construisent de nouveaux lycées, donc c'est des marchés énormes. Et on sait que 2%, grosso modo, sur chaque marché, ira pour le financement politique, principalement RPR, donc le parti de Chirac à l'époque. Et il y a une redistribution, c'est un peu la spécificité de ce dossier, sur l'opposition socialiste de Chirac, ce qui permet de
mouiller tout le monde.
Voilà, et donc de s'assurer d'une certaine omerta sur ce phénomène.
Pardon, 2%, c'est la convention, c'est 2%.
Alors, au procès, ce Roussin, qui était le bras droit de Chirac à la mairie de Paris, voilà, Michel Roussin, a reconnu l'existence de ce pourcentage, mais qui était grossier, bien sûr, ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Mmh. Mais grosso modo, c'était l'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur qu'on devait payer. Donc, il y a eu ça. Il y a eu dans les HLM, qui est là aussi une des grandes institutions de la mairie de Paris, directement liée à la mairie de Paris. Donc, tous les marchés publics, et ils sont nombreux, ascenseurs, rénovation, construction, etc., font l'objet également de ponctions similaires pour le financement politique. Ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité de l'organisation de la vie du parti chiraquien, c'est les fameux emplois fictifs. Et c'est ce qui va être in fine fatal, on va dire, à Jacques Chirac, parce que c'est là-dedans qu'il sera condamné. Mais c'est un petit peu un hasard, parce que toutes ces affaires vont cheminer parallèlement. Et puis, il se trouve qu'à la fin, il y aura celle-là qui va rester. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on va les juger. Mais ça aurait pu être une autre, en fait. Bon, voilà. Et donc, les emplois fictifs, c'est le fait qu'au cabinet du maire, mais aussi dans les mairies d'arrondissement, différents organismes paramunicipaux, parce qu'en fait, la mairie de Paris est une galaxie d'institutions, un dédale d'instances, eh bien, on salarie des gens qui, en fait, ne travaillent pas pour la mairie de Paris, mais pour le RPR, ou alors des proches, des gens dont on veut se concilier les bonnes grâces. On a eu, par exemple, le chauffeur de Marc Blondel. Ouais. Était payé, le chauffeur garde du corps de Marc Blondel était payé par la mairie de Paris, donc... Marc Blondel était un proche de Chirac, donc on a rangé un petit peu ses... Voilà, donc Marc Blondel lui-même, d'ailleurs, a été traduit en procès des emplois fictifs. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres.
C'est un exemple, mais qu'on comprenne bien, il s'agit donc d'argent public, on est d'accord, qui va aller au bénéfice d'institutions privées.
C'est un détournement de fonds publics, pur et simple.
Que ce soit des partis politiques ou des syndicats.
C'est d'ailleurs la qualification qui a été retenue pour les emplois fictifs. C'est-à-dire que si on dépense de l'argent public... pour payer quelqu'un qui travaille pas pour la collectivité, mais qui travaille pour un parti, ou qui travaille pas du tout d'ailleurs, parce que ça, pour personne, parce que ça s'est vu aussi, eh bien, c'est un détournement de fonds publics. C'est la qualification principale pour laquelle Jacques Chirac a été renvoyé et condamné en 2011. Donc ça, c'est la deuxième modalité. Et puis, il y a eu d'autres choses plus graves, je trouve, enfin, d'un certain point de vue, c'est l'histoire de la fraude électorale. Donc on sait que, en 88, Jacques Chirac a perdu l'élection présidentielle lourde. C'est sa deuxième défaite, il est mis en cause à l'intérieur du RPR, et se profile en 89 l'élection municipale. Si d'aventure il venait à perdre même quelques arrondissements, il n'est pas question qu'il soit défait, mais il risque de perdre quelques arrondissements au profit de l'opposition de gauche, eh bien sa position serait fragilisée au sein de son parti. Donc on sait que va être organisée à ce moment-là une opération de fraude électorale, c'est la qualification qui sera retenue ensuite dans plusieurs arrondissements de l'Est parisien. Et in fine, au milieu des années 2000, une équipe du 3e arrondissement, en fait, c'est-à-dire une petite partie de cette grande opération de fraude électorale, sera déclarée coupable.
Les frères Dominati, non ?
Voilà, Dominati père et ses fils, qui contrôlaient la mairie du 3e, mais Dominati père a été premier adjoint de Chirac à un moment donné, donc il n'était qu'une des chevilles ouvrières de cette opération, qui consistait à inscrire sur les listes électorales des gens qui n'avaient pas être des militants RPR, des employés de la ville de Paris qui habitent en fait en banlieue, etc.
C'est ce qu'on appelle les faux électeurs.
Tout à fait. Et donc ce système, d'ailleurs, à l'origine, a été imaginé et développé par Jean Tiberi, qui sera le successeur de Jacques Chirac en 95-2001, mais qui a été avant ça son premier adjoint, et qui tient le 5e arrondissement, entre guillemets. 5e arrondissement qui est l'arrondissement de naissance de Jacques Chirac, c'est là qu'il est né, et c'est là qu'il se faisait élire quand il était maire de Paris. Donc, ça s'est fait dans le 5e arrondissement à un niveau industriel, puisqu'on avait plusieurs milliers de faux électeurs sur, je ne sais pas, un corps électoral d'une quarantaine de milliers de personnes. Donc, cette affaire, encore une fois, a duré entre 97 et 2009 et a abouti à l'inéligibilité de Jean Tiberi. Mais il faut bien apercevoir que ça a été aussi un élément du règne de Chirac à la mairie de Paris, fait de frauder l'élection, car c'est comme ça que la justice l'a qualifié. Oui.
Thierry Lévesque, on va se retrouver après avoir écouté une chanson qui s'appelle « Des hauts et des bas ». Voilà. Et puisque vous parliez des Dominati dans le 3e arrondissement, je précise qu'ils sont tombés en 2001, que c'est Pierre Edenbaum, socialiste Pierre Edenbaum, qui est devenu maire du 3e et qui l'est encore. À tout à l'heure.
C'est sous ma porte, je comptais vivre fort, et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap, je secouais la tête, et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, erré pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient, trop des questions retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire. Ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas.
Thierry Lévesque, nous reprenons notre entretien autour de votre livre, dont je rappelle le titre, puisqu'on va l'explorer maintenant, Intouchable, alors avec un point d'interrogation quand même.
C'était à l'époque où M. Chirac n'avait pas encore été jugé, donc voilà. On ne savait pas s'il le serait. Donc,
ouais. Voilà.
Mais j'aurais pu l'enlever. Hein.
Ah bah non, écoutez, au moment où vous l'écrivez, il n'est pas encore auditionné et condamné.
C'est ça.
En tout cas, il n'est pas condamné. Donc Intouchable, point d'interrogation, maintenant on l'enlève. Chirac face au juge. Alors la question, est-ce que la justice et les juges d'instruction ont eu tous les moyens et toute la liberté de travailler sur ce dossier et d'avancer? J'ai le sentiment que la réponse est à la fois oui et non.
Effectivement, la réponse est très complexe et ça renvoie aussi à l'appréhension très difficile par l'opinion du fonctionnement de cette machine française Quel résultat d'une culture historique qui était millénaire, bien sûr, c'est-à-dire qu'à l'origine, la justice était rendue par le roi, elle n'était pas détachée du pouvoir politique. Et d'ailleurs, le roi résidait dans l'actuel palais de justice de Paris, il faut s'en souvenir, hein, jusqu'à Philippe le Bel. Mmh. Et donc, c'est le symbole un peu de cette confusion qui demeure un peu d'une certaine manière, puisqu'on sait que si les juges d'instruction, ceux qui enquêtent sur les affaires Chirac dont on vient de parler, sont indépendants par leur statut, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les muter. Les procureurs n'ont pas ce statut-là. Ceux qui déclenchent les poursuites et ceux qui requièrent des peines au procès, ils sont liés au pouvoir par leur mode de nomination. Le pouvoir les choisit comme des préfets, hein, après un avis consultatif d'un organe indépendant. Et donc, dans les affaires Chirac, il y a eu toujours ce jeu entre cette partie libre, on va dire, de la magistrature et cette partie moins libre ou servile, quelquefois. Et sachant que l'affaire se complique encore lorsqu'on sait que, des fois, ils s'échangent un peu les rôles. C'est-à-dire, il y avait des juges d'instruction qui, tout libres qu'ils étaient, se sont, passez-moi l'expression, un peu aplatis par peur.
Et auto-censurés.
Voilà, auto-censurés. Et puis, à l'inverse, il y a des procureurs qui ont fait le travail alors que on aurait pu penser que, dans leur statut, c'était pas ce qui allait se passer. Donc, au bout du bout, ben, le travail est fait, puisque les affaires ont été jugées, souvent, mais au bout de 15 années, avec des peines qu'on peut estimer quelquefois dérisoires par rapport à ce qui est asséné tous les jours aux comparutions immédiates à des voleurs de poules, dirons-nous. Et donc, je crois que l'opinion en garde l'idée qu'il ne s'est pas passé grand-chose à l'encontre des corrompus ou des corrupteurs. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est ça le.
Alors, l'opinion, on la comprend quand elle se dit que ça passe pas grand chose. Souvenez-vous de la cassette Méry. On avait dit, mais ça va faire sauter la République. Ça n'a rien fait sauter du tout. Et pourtant, dans ce qu'il disait, alors Chirac avait dit, c'est abracadabrantesque, peut-être, mais en fait, il disait quand même des choses incroyables. Il disait, j'ai des valises de billets. Et monsieur Chirac est archi au courant.
Ils ont existé, de fait, ça a été confirmé après.
Donc, effectivement, si
alors, effectivement, quand on regarde tout ce qui s'est passé, qu'on le sait, quand on a assisté, comme moi, à tous les procès, qu'on connaît les détails, les méandres de tout ça, et ce système qu'il faut appeler par son nom, un système de corruption institutionnelle au plus haut niveau de l'État, donc de la personne en tout cas qui a ensuite occupé le plus haut niveau de l'État, on aurait pu penser que ça pouvait motiver presque une crise de régime. Or, c'est pas ce qui s'est produit. C'est-à-dire, il s'est produit, à la fin, quelque chose qui peut sembler dérisoire. Mais ça n'est pas tant que ça. Et je crois qu'il faut élargir la perspective historique, c'est-à-dire repartir peut-être même à Philippe le Bel, hein, jusqu'à nos jours, et jusqu'aux années 70-80, où jamais ce problème n'était abordé judiciairement. C'est-à-dire que la justice s'est confrontée pour la première fois un chef d'État en exercice, en abordant ces affaires de la mairie de Paris. Et donc, on peut comprendre, en élargissant cette perspective historique, qu'elle a été quand même un petit peu timorée. Mais à la fin de la fin, Jacques Chirac a été condamné avec des attentes. Bon, certes, à ce moment-là, son état de santé ne permettait pas une peine de prison ferme.
Oui, enfin, il y a le principe, c'est important.
Voilà. Et surtout, il a été établi qu'il avait, le jugement le dit, manqué à l'obligation de probité qui pèse sur les élus au détriment de l'intérêt général des Parisiens. Donc, symboliquement, et au-delà du symbole, il a été quand même, la justice a eu le dernier mot contre l'ancien chef d'État. Et je crois que c'est ouvert une nouvelle période dans laquelle nous sommes encore et où ce processus continue. Alors on va voir s'il aboutira. Mais il est certain que c'est quelque chose, il faut le voir je pense comme un début et ne pas le juger dans l'absolu parce que de toute évidence, s'attaquer au président de la République dont on sait qu'en fait, dans la culture française, il est un monarque républicain.
C'est clair.
Il est quelque chose de très symboliquement élevé. C'était délicat.
Il y a aussi la méthode dans ces affaires-là des fusibles. On a Alain Juppé, par exemple. Bon, alors, plus ou moins fusible, je ne sais pas. Mais enfin, on sent bien qu'il y a des personnes donc, qui étaient trésoriers du RPR, hein, c'est bien ça.
Alors, pas tout à fait. Juppé était secrétaire général du RPR, donc d'ailleurs celui qui tenait la boutique, et adjoint aux finances de la mairie de Paris.
Adjoint aux finances, c'est ça.
Donc, il n'est pas tant fusible que ça, puisque
ouais, bon, alors, sûr,
il a pu dire, et il a laissé penser par la suite qu'il avait payé pour les autres. Enfin, il était quand même celui qui tenait la boutique à la mairie de Paris. Et au parti.
Oui,
donc, c'est pas non plus par hasard que ça s'est trouvé là.
J'entends bien. Fusible, ça veut pas dire forcément que si la personne est condamnée, c'est totalement injuste. Mais ça veut dire que c'est un cordon sanitaire autour du président de la République. Est-ce qu'il y a de ça?
Oui, il y a de ça, oui et non. Parce que la justice se trouvait face à un problème technique, d'abord, qui était que le chef de l'État en exercice n'avait pas de statut au regard de la justice. Donc il y a eu une hésitation, vous en avez parlé dans votre introduction, le premier juge se déclare incompétent pour l'entendre. Et puis finalement, après beaucoup de péripéties, il y aura un arrêt de la Cour de cassation qui dira que lorsque le chef d'État en exercice ne peut être ni mis en examen, ni auditionné pendant son mandat, donc il a une immunité, et cette immunité sera consacrée dans une réforme constitutionnelle de 2007. Donc là, aujourd'hui, c'est dans le marbre. Voilà. Donc la justice avait un réel problème de juridique avec ça. Bon, mais ça ne l'empêchait pas de s'attaquer, entre guillemets, aux autres protagonistes de l'affaire, parce qu'il n'est pas tout seul, M. Chirac. Il y a quand même... voilà.
Mais Louis-Yvonne, Robert Pendreau, il y en a. Hein.
Il y en a eu un certain nombre, oui, et je peux vous dire que si on les avait aujourd'hui dans le studio, ils nous en diraient peut-être beaucoup sur le fait qu'ils ont effectivement subi garde à vue, condamnation, procès, quelquefois prison, même puisque M. Roussin, par exemple, a été incarcéré. Donc, il est vrai que cette immunité présidentielle a posé problème, puisqu'en fait, les foudres judiciaires sont tombées un peu sur les seconds couteaux, même si c'est des gens qui avaient quand même un rôle dans ce système. Donc, c'est pas non plus absurde qu'ils aient à répondre de tout ça. Mais on a bien vu quand même dans ces affaires Chirac, dans tous ces épisodes, qu'il y avait un problème avec cette histoire d'immunité et il n'est pas résolu à l'heure où on parle.
Alors, il y a un problème avec les financements. Il y avait un gros problème avec le financement de campagne, mais parfois les affaires sont très graves sur le fond. Je pense à l'affaire Karachi et on voit que Édouard Balladur est en train d'être rattrapé par cette affaire-là. L'affaire du financement présumé, bien sûr, de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye de Barkhadefi, présumé, je le dis avec beaucoup de prudence, hein, évidemment. Mais si cela devait être avéré un jour, là, c'est grave, parce qu'on est dans des relations internationales.
C'est ce que j'appelais tout à l'heure la culture de la corruption. De toute évidence, depuis l'époque Chirac, des années 80-90, où on parlait en millions d'euros, peut-être en dizaines de millions d'euros, au moment des marchés publics de lycée. Maintenant, on parle en centaines de millions d'euros, parce que les campagnes électorales sont de plus en plus fastueuses. Tout ça s'est accéléré et surtout avec l'internationalisation, de la même manière que dans les années 80-90, il y avait la décentralisation, les maires prenaient du pouvoir. Maintenant, on a la mondialisation, les grands marchés, les grandes entreprises françaises traitent à des niveaux financiers qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on avait il y a 30 ans. Et les montants de la corruption, et l'échelle a changé. Et donc, je crois que les problèmes qui se sont posés dans l'affaire Chirac se posent de manière encore plus acérée aujourd'hui avec ces affaires. Et on voit bien que la justice a toujours du mal, même s'il n'y a pas de problème d'immunité, là, pour le coup, dans la Libye et dans Balladur, on est encore sur des délais qui ne sont pas des délais raisonnables.
Toute dernière chose, alors on aurait pu aussi parler de la gauche, hein, l'affaire Urba, la MNEF, mais vous avez répondu à cela en disant que finalement, tout le monde était un peu dans le même bateau, parce qu'on se partageait le même gâteau.
Il y a eu un dossier, notamment, où il a été démontré que le RPR reversait une partie de la corruption au Parti Socialiste. Donc, je ne crois pas que la gauche puisse avoir un brevet de quoi que ce soit dans cette affaire. D'ailleurs, elle n'a pas été très bavarde, la gauche, durant toutes ces affaires Chirac. Et M. Delanoë, au bout du bout, a retiré la constitution de partie civile de la ville de Paris au procès Chirac. Il faut s'en souvenir.
Bien, merci infiniment Thierry Lévesque. Je rappelle le titre de ce livre, Intouchable, Chirac face au juge. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, d'une cassette à l'autre, 1996, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin.